Merci pour tout ce que Dieu fait dans cette assemblée. Merci pour la main de l'Éternel sur l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit dans ce lieu. Merci pour tous les responsables de cette église. Merci pour le pasteur Marc. Amen. Vous êtes un don de Dieu. Que le Seigneur poursuit son œuvre au milieu de vous. Amen. Je suis très content quand je viens ici. Il y a une chose que j'ai remarquée dans cette assemblée, c'est que tout le travail qui est fait, c'est pour que le regard du peuple se tourne vers Jésus. Pas vers un système, pas vers une organisation, mais vers Jésus. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Amen. Alors, prenons notre Bible dans le livre de Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 14. Et on va commencer à lire à partir du verset 5. Ça nous parle de ce qui s'est passé en Égypte avec Moïse et avec le peuple d'Israël. Amen. Cette histoire de Moïse avec Pharaon en Égypte, avec le peuple d'Israël, retrace la vie chrétienne, retrace comment Dieu voit les chrétiens dans le monde. Ce qui nous arrive, ce que nous faisons, quelle est la place du chrétien, quelle est la place de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de nous. Dieu a illustré tout cela dans l'histoire que la Bible nous raconte à propos de Pharaon, Moïse, le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël. Et la sortie du peuple d'Israël du pays de l'Égypte. Amen. Et cette histoire a commencé justement au moment où l'Égypte a atteint le sommet de son apogée. L'Égypte, en ce moment-là, était le pays le plus riche, le plus fort du monde. Amen. L'Égypte avait l'armée la plus puissante du monde. Et c'était justement en ce moment-là que le peuple de Dieu était pris en esclavage. Amen. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Au moment où le monde, avec son système, a atteint son apogée, avec tous les développements que nous voyons aujourd'hui, l'Internet et tout ce qui suit. Et peut-être que tu es pris aussi en esclavage quelque part. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Alléluia. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous le savions. Ne pensez pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Non. Le monde n'est qu'un perpétuel recommencement. Ce que nous voyons aujourd'hui a déjà existé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est la même chose? C'est tout simplement parce que Satan et tous ses démons agissent toujours de la même manière. De la même façon. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur attire notre attention sur ces choses-là, afin que nous puissions faire très, très, très attention. Amen. Alors, le peuple d'Israël était pris en esclavage en Égypte, et Dieu lui-même a décidé de libérer son peuple. Et il a choisi un homme, vous connaissez bien l'histoire, Moïse. Ça a été une bataille, ça a été un moment difficile. En face, il y avait la résistance. Moïse avait confiance en Dieu. La présence de Dieu était là avec Moïse. Dieu a agi, mais l'ennemi aussi a agi. Moïse a dû batailler. Alléluia. Et si cela est arrivé à Moïse, c'est que cela peut aussi nous arriver à nous. C'est pourquoi nous devons savoir que les choses qui nous arrivent, ça a déjà arrivé à ceux qui nous ont précédés. Et c'est pourquoi nous devons combattre. Parce que le monde restera toujours le monde. Le combat restera toujours le même. Et Dieu restera toujours le même. Si nous ne comprenons pas ces choses, il va y avoir des découragements. Il y a des gens qui vont tourner le dos au Seigneur. Il y a des gens qui vont quitter les églises pour aller dans d'autres églises, pensant que c'est ailleurs que le combat sera différent. Il va y avoir des frustrations. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris comment Dieu fonctionne et comment le monde fonctionne. Amen. Que le Seigneur nous aide. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent chargés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon. Ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Stéphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, L'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Alléluia. Voilà une histoire très puissante, quelque chose qui s'est passé en Égypte avec le peuple de Dieu. Mais bien aimé, nous devons savoir que c'est Dieu qui a fait sortir son peuple d'Israël de l'Égypte. Mais, c'est très important, c'est avec l'accord de Pharaon qui a accepté que le peuple puisse sortir, que Moïse a pris le devant du peuple pour le faire sortir de l'Égypte. Dieu a agi. Pharaon a accepté. Et Moïse est parti avec le peuple. Mais quelques instants, Pharaon dit non. Je ne vais pas les laisser partir. Il a pris ses meilleurs chevaux et ses chars. Alors que le peuple sortait les mains levées. Ils n'avaient rien. La seule chose qu'ils avaient, c'était la promesse de Dieu par Moïse. Amen. Et ils sont sortis. Et Pharaon a pris la décision de les suivre. Au verset, et ça devient très intéressant, au verset 9, la Bible dit, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer. Amen. Dieu a permis que Pharaon et son armée puissent les atteindre. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où ils ont commencé à paniquer. Oh, mes bien-aimés, nous devons savoir une chose dans la vie chrétienne que nous menons. Que lorsque je viens au Seigneur, c'est une déclaration de guerre que je viens de faire contre les puissances du ténèbre, contre ceux qui n'ont pas Jésus en eux. Et ce combat doit commencer et ce combat va continuer. Mais l'espoir et la paix que nous avions, c'est que c'est Dieu qui combat pour nous. Alors, Dieu va permettre, dans certaines circonstances, que tu puisses voir ta délivrance, que tu puisses voir la réponse à ta prière. Cela va arriver. Mais il faut que tu saches que l'ennemi de son côté, Satan de son côté, les puissances du ténèbre de leur côté, ils vont quand même agir. Ils vont quand même chercher à te faire douter. Alléluia. Et quand je dis les puissances du ténèbre, quand je parle de Satan, mes bien-aimés, n'essayez pas seulement de regarder un esprit impur quelque part, mais regardez les gens, les hommes qui sont autour de toi, partout où tu vas, au lieu de ton travail, même dans l'église, même ailleurs, qui sont animés par des esprits du mal, par des esprits de désordre, par des esprits de problèmes. Tout cela, c'est pour te faire douter de la réponse de ta prière. Pourquoi le diable fait ces choses? Vous allez comprendre, mes bien-aimés. Parce que le diable sait une chose. Que quelqu'un qui n'a pas sa foi posée, solide sur le nom de Jésus, et qui ne tremble pas, et qui croit, et qui sait que ce que Dieu dit, cela va s'accomplir, eh bien, celui-là, c'est un vrai champion. L'ennemi le sait, Satan le sait. Mais maintenant, pour te ravir, pour ravir tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour que les promesses de Dieu ne deviennent pas la réalité dans ta vie, le diable va tout faire pour que le doute vienne dans ton cœur, pour que le doute s'installe en toi et que ce que Dieu veut faire ne puisse pas atteindre son but. Parce que Dieu n'exauce pas les gens qui ont le doute dans leur cœur, qu'ils n'espèrent pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le royaume de Dieu est fondé sur la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est que je crois et que mes regards sont tournés vers Jésus. Quand mes regards sont tournés vers Jésus, je regarde toutes choses comme de la boue. Je suis Jésus. Et les merveilles de Jésus vont me suivre. Lorsque je suis les merveilles de Jésus, je ne suis pas dans le vrai chemin. Ce n'est pas nous qui suivons les miracles, mais c'est les miracles qui nous suivent pendant que nous, nous suivons Jésus. Luc 4, verset 11, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens demandent à Jésus, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Jésus leur répondit. Un peuple pervers et adultère demande un miracle. Il ne leur sera fait d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Pourquoi Jésus a parlé du miracle du prophète Jonas? Jésus parlait de lui. Alléluia. De même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu crois au miracle qui est Jésus, les regards tournés vers Jésus. Et il dit par la suite, alors les hommes de Ninive s'élèveront le jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Pourquoi? Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et il conclut, voici, il y a ici plus grand que Jonas, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils ont demandé les miracles, mais Jésus leur a parlé de lui, de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Pharaon a suivi le peuple. Et quand il a son armée a mis la main sur le peuple, a atteint le peuple d'Israël, ils se sont retournés. Ils ont vu que l'armée de Pharaon est là. Mais bien aimé, le diable va t'atteindre. Il va venir jusqu'à toi. Il sera là, en face de toi. Lorsque tu as l'impression que tout va bien, ça y est. On sort de l'Égypte. Dieu m'a exaucé. Combien de fois tu as donné des témoignages pour ce que Dieu a fait dans ta vie? Et combien de fois tu as fait des pas en arrière qui met en doute et en contradiction le témoignage que tu viens de donner il y a quelques mois ou il y a quelques semaines? Combien de fois on a l'impression qu'on avance, mais on a l'impression qu'on recule? En réalité, on ne recule pas. La réalité, c'est que l'ennemi est devant toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Quand ils se sont retournés, qu'ils ont vu que l'ennemi est là. Verset 10 jusqu'à 11. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Point. Ils dirent à Moïse, par la suite, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Mes bien-aimés, cela nous arrive tous les jours. Est-ce que tu es en train de vivre en ce moment, lorsque les problèmes sont là? Quelque chose que tu ne comprends pas. Peut-être dans l'église, peut-être dans ta famille, au lieu de ton travail. Tu te tournes vers Dieu. Tu cries à Dieu avant. Mais tout de suite après ta prière, tu te retournes contre ton frère, contre ta sœur. Tu donnes la responsabilité au pasteur, contre ton église, ou encore contre ton patron. C'est exactement ce que le peuple d'Israël a fait. Quand ils ont vu les Égyptiens, leur première réaction, c'est de tourner vers Dieu. Oh Dieu, sauve-nous! Alléluia! Oh Jésus! Souviens-toi! Ils ont fait toutes sortes de prières. Peut-être tu as pris des moments de jeûne. Tu as prié. C'est une très bonne chose. Mais sauf que tout de suite après, tu as tourné le combat contre ton frère qui est responsable de ton problème. Contre ton pasteur qui n'a peut-être pas très bien prié pour toi. Cette attitude-là, ça repousse la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Ça rejette l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'encore là, nous venons de voir que le peuple avait deux sentiments. Ils aimaient Dieu. C'est pourquoi ils se sont tournés vers Dieu. Mais ils ne voulaient pas suivre les principes de Dieu. Est-ce qu'on a compris quelque chose, mes frères? Le chrétien en difficulté va prier, mais il va par la suite s'attaquer à son frère ou à sa soeur ou à son patron au travail, etc. En faisant ça, tu es en train de te perdre dans le combat. Et ça peut t'affaiblir. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons combattre le bon combat. Et s'il y a de bons combats, c'est qu'il y a de mauvais combats. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Alors, Moïse a rassuré le peuple au verset 13. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Moïse avait une grande confiance en l'Éternel. Il avait une grande confiance en Dieu. Il a essayé de rassurer le peuple. Au verset 14, il a dit au peuple, gardez le silence. Amen. Quand tu traverses des moments difficiles, ou quand tu ne comprends pas ce qui se passe, lorsque tu es un peu triste, ou alors en colère, tourne-toi vers le Seigneur. Prie Dieu, mais garde le silence. Amen. Lorsque j'invoque l'Éternel, c'est pour que l'Éternel puisse agir. Mais si j'invoque l'Éternel et que de l'autre côté, je cherche à arranger mon problème moi-même, à m'attaquer à des gens, à parler, à faire des choses, je ne suis plus dans la foi. Je suis dans le doute. nous ne devons pas prier tout simplement parce que la parole de Dieu nous demande de prier. Nous ne devons pas prier parce que je dois faire comme les autres. Nous ne devons pas prier par habitude, mais nous devons prier par conviction. Quand je prie, je fais confiance à Dieu. Je reste dans le silence en croyant que mon Dieu a agi et je verrai l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie. Parfois, je ne comprends pas les choses, mais je reste en silence. Dieu voulait que le peuple d'Israël reste silencieux. Parce que les paroles qui sortaient de la bouche de ce peuple-là, ça irrite le Saint-Esprit. Dieu ne nous demande pas souvent beaucoup de choses, mais Dieu nous demande tout simplement d'avoir une bonne attitude. Parce qu'une bonne attitude détermine la position de la foi de quelqu'un. La foi n'est pas seulement ce que nous disons par la bouche. Ah, je sais que Dieu me sauve, je sais que Jésus est tout puissant, je sais qu'il agit, je sais que je suis guéri. C'est bien, mais c'est insuffisant. Notre attitude parle encore plus fort devant le trône de Dieu. Parce que Dieu ne juge pas l'apparence, mais il juge ce qui est dans le cœur. Dieu sait qui tu es. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Quand tu as la crainte de Dieu, il le sait. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu, il le sait. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a dit que le peuple reste silencieux. Vous parlez trop, ne dites plus rien. Laissez-moi agir. Tu parles trop, arrête, ne dis plus rien. Laisse-moi Dieu agir. Oui, je sais, Pharaon est là. Je sais que son armée est là. Je sais qu'il y a des chars. Je sais que toi, tu n'as pas d'armes parce que tu es sorti les mains levées. Je sais tout ça. Mais reste tranquille. Alléluia. 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 Le Seigneur nous exhorte aussi souvent à souffrir sans se plaindre. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas dire que tu souffres. Si. Mais dans quel état d'esprit tu le dis ? Est-ce que tu le dis dans l'idée d'accuser quelqu'un ? Est-ce que tu le dis dans l'idée d'affronter quelqu'un ? D'indexer quelqu'un ? Est-ce que tu le dis dans le but de décourager quelqu'un ? Ou d'accuser une autre personne ? Ou alors tu le dis tout simplement parce que tu souffres et tu veux que Dieu t'aide ? Dieu sait tout cela. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 jusqu'à verset 10, la parole de Dieu nous exhorte à souffrir sans se plaindre. Mais après que nous ayons souffert un peu, lui-même, notre Dieu, il va nous rendre inébranlables. Alléluia. Il a dit, après que je puisse souffrir un peu de temps. Un peu, il a dit un peu. Et si Dieu dit un peu, ça veut dire que Dieu ne te laissera pas débordé par la souffrance, débordé par l'incompréhension, débordé par les choses, parce qu'il est Dieu. Il dit, je ne vous laisserai pas tenter au-delà de votre force. Et s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais pourquoi je n'arrive pas ? Je n'arrive pas tout simplement parce que je ne vis pas la vie chrétienne dans la foi fondée, solide sur Christ. Je ne suis pas effrayé lorsque l'armée de Pharaon est là. Je ne multiplie pas des paroles de gauche à droite lorsque je suis dans l'incompréhension. D'ailleurs, lorsqu'on est dans l'incompréhension, taisons-nous. C'est en ce moment-là que je laisse toute la place à la direction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Verset 19. La nuée de Dieu. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia! Voilà ce que Dieu est capable de faire. Quand tu es dans l'incompréhension, quand la situation est là devant toi, ton entreprise ne va pas bien. On t'a informé que bientôt, l'entreprise sera fermée et qu'il va y avoir des licenciements. Alléluia! Des mauvaises nouvelles qui arrivent et qui se présentent à toi comme l'armée de Pharaon. Sache que si tu es enfant de Dieu, c'est que la présence de Dieu sera toujours là pour te protéger dans la souffrance, c'est-à-dire qu'il se tiendra entre toi et l'armée de Pharaon pendant le temps qu'il faudra. Est-ce que vous êtes en train de comprendre cela? La nuée s'est mise entre le peuple d'Israël et l'armée de Pharaon toute la nuit jusqu'au matin. Au fait, la nuée de Dieu a empêché Pharaon de toucher au peuple de Dieu le temps que Dieu lui-même décidera de faire traverser le peuple la mer Rouge. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les problèmes qui sont là, sache que Dieu est aussi là. Tu peux encore passer un moment d'incompréhension avant que tu puisses atteindre tes buts, avant que tu puisses accomplir tes projets. Peut-être que les choses ne fonctionnent pas comme toi tu voudrais que ça fonctionne. Mais sache une chose, pendant ce moment-là, la nuée de Dieu est à côté de toi. Alléluia! Alléluia! Et Dieu va agir. Amen. Il est présent dans le combat et il ne permettra pas à l'ennemi de te détruire, même si les incompréhensions, les souffrances sont là. Il ne permettra pas à ce que l'ennemi puisse te détruire. Quand la Bible parle de la destruction, quand la Bible dit que l'ennemi détruit quelqu'un. Mais bien aimé, nous devons savoir quelque chose. Ce qui préoccupe le diable, ce n'est pas que tu ne puisses pas trouver à manger. Ce n'est pas que tu sois désargenté. Ce n'est pas que tu ne puisses pas avoir un toit. Ce n'est pas ça sa première préoccupation. Ce n'est pas que tu ne puisses pas avoir des vêtements. Si on pense comme ça, on est en train de nous tromper de combat. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu ne puisses pas avoir une épouse ou que tu ne puisses pas avoir un mari. Ce n'est pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, c'est détruire ta foi chrétienne. C'est-à-dire tu perds la foi. Et tout ce qu'il fait, le but est que tu perds la foi et que ton regard ne se tourne plus vers Jésus. Ah, oh, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen là. Alléluia. Alléluia. Parce que quand l'armée de Pharaon a commencé à agir, est arrivée en puissance, avec des grands bruits. Qu'est-ce que le peuple a fait? Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a dit, je préfère retourner en Égypte. je préfère rester vivre en Égypte. Est-ce là ton cas? J'étais bien avant, quand j'étais chez moi et que je ne venais pas dans une église. Je priais mon Dieu tranquille dans ma chambre. Tout allait bien. Mais depuis que j'ai commencé à revenir à l'église là, les choses ne marchent plus comme avant, etc. Oh, mes bien-aimés, nous ne sommes pas différents des Égyptiens, des Israéliens en ce temps-là, lorsque nous parlons comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes yeux sont tournés vers les miracles. Mes yeux sont tournés vers les merveilles. Mes yeux sont tournés vers les bienfaits de Dieu. Mes yeux sont tournés vers ces choses-là. Et c'est après que je pense à Dieu, que je pense à Jésus. Jésus ne vient pas avant. C'est pour cela que lorsque ces merveilles sont menacées, lorsque ces difficultés arrivent, lorsque ce que je crois, ce en quoi j'ai mis ma foi, est touché, est dérangé, alors je commence à vaciller. Et je prends parfois des décisions sous le coup de la colère. C'est pour cela que il y a des transferts d'église en église. Il y a des avions qui circulent. Atterrissage, embarquement. Et tout cela, on le fait au nom de Dieu. Alléluia. Il est temps que nous revenions sur le chemin de Jésus-Christ et que nos yeux se tournent vers Jésus-Christ. Il a dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement mon royaume, le royaume et la justice et tout ce que ton cœur désire. Ça vient après. Dites avec moi, après. Après. Un jour, j'étais dans mon petit bureau à l'église. Et puis, une sœur est arrivée. Ah, pasteur, il y a quelqu'un qui est venu te voir. Je m'apprêtais pour le culte, en fait. Alors, je suis sorti, j'ai trouvé une dame avec sa fille. Dame bien élégante, sa fille aussi. Et j'ai dit, oui, bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah ouais, mais excusez-moi monsieur, je suis venu parce que on m'a dit qu'il y a un pasteur américain noir qui est venu ici et il fait beaucoup de miracles, il a beaucoup de puissance. C'est pourquoi j'ai ramené ma fille qui a tel. Je lui ai dit, madame, vous avez ramené votre fille à un pasteur américain noir ou vous avez ramené votre fille à Jésus? Elle me dit, ah, mais c'est ce qu'on m'a dit, c'est pourquoi je suis venue. Déjà, un, je ne suis pas américain noir. Et puis deux, je ne fais pas de miracle. Je n'ai jamais fait un miracle dans ma vie. Parce que c'est Jésus qui fait des miracles. Sans Jésus, on n'est rien. Alléluia. Et c'est ça, ce qui se passe dans nos assemblées. Mais bien-aimés, nous tendons vers la fin. Tout simplement lorsque nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, l'accomplissement de toutes les prophéties de Dieu. Mais il est temps que nous nous retournons vers le droit chemin qui est Christ. Que nous recherchons d'abord ce qui fait la foi avant que les autres choses y viennent après. Nos incompréhensions, nos discussions, nos querelles, nos organisations. Il y a même des gens qui quittent les églises tout simplement parce qu'ils n'est pas d'accord avec un frère sur une telle organisation. C'est grave. Le seul motif qui peut nous amener à aller de gauche à droite, c'est si Jésus n'est pas dans notre assemblée. Si on ne nous prêche pas Jésus. si on ne nous demande pas de tourner notre regard vers Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Verset 21. Moïse va étendre sa main sur la mer pour que la mer s'ouvre et que le peuple d'Israël puisse traverser. Il a levé le bâton comme Dieu le lui a demandé. Et Dieu a opéré le miracle. La mer s'est ouverte en deux. Alléluia! Est-ce qu'on est content pour ça? Là, on vient de voir le miracle. Dieu l'a fait. Alléluia! Tu as passé un examen. Tu attends le résultat dans la prière. Tu arrives devant le centre. Le jour de la proclamation des résultats. Tu arrives au centre. Tu vois ton nom sur la liste. Est-ce que le miracle est fait ou le miracle n'est pas fait? Le miracle est fait. Alléluia. La mer s'est ouverte. Le miracle est là. Est-ce que Dieu a exaucé ou Dieu n'a pas exaucé? Dieu a exaucé, mais quelque chose va se passer. Le peuple d'Israël est entré dans son miracle. Alléluia! Tu es entré dans ton miracle. Tu as vu l'accomplissement. Tu as vu ce que tu as demandé. Ça s'est fait. Tu es entré dedans. Oh, peuple de Dieu! Pharaon aussi est entré dans ton miracle. Je vous ai dit ici tout à l'heure que le diable, il ne lâche pas. Tu as vu l'accomplissement, la réponse à ta prière. Tu es rentré dans l'accomplissement de la réponse à ta prière. Mais l'ennemi ne te lâche pas. Il est entré dans cette manifestation avec toi. Et qu'est-ce qu'il recherche? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il recherche tout simplement pour que ta foi tremble, tu tombes dans le doute et que tu abandonnes. Alléluia. Les complications, il espère que les complications vont arriver. Il espère que certains problèmes vont arriver. Il espère que certaines incompréhensions vont quand même se présenter. Il espère qu'il va y avoir un petit obstacle et tu vas dire, mais comment ça se fait que j'avais prié? J'avais l'impression que Dieu m'a écouté. Telle personne est venue me donner une prophétie. Oh mon frère, Dieu a écouté ta prière et il t'a exaucé. Confirmer ma bénédiction, pour confirmer la direction par laquelle je suis en train d'avancer. Moi-même, j'ai rêvé la nuit, j'ai eu une vision. J'ai vu cet homme-là, vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé vers moi. Mais après, les choses commencent à trembler. Et tu ne comprends pas. Ah non, si c'était la volonté de Dieu, il ne devrait pas avoir ça. Si c'était la volonté de Dieu, la personne n'allait pas être comme ça. Comme si Dieu avait déjà préparé les choses et une fois que tu rentres dedans, ça y est. Je suis au royaume de Dieu et demain on va commencer la noce de l'agneau. Mon frère, ma soeur, reviens sur terre. Tu n'es pas encore au royaume et la noce ne sera pas demain. Mais tu es dans le monde et tu es en France et tu es toujours cohabité avec Satan. Ah, pasteur, mais pourquoi tu nous dis ça? Jésus, le Fils de Dieu, a fini 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il bouillonnait, mais Satan était à côté de lui. Ah, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ce royaume-là. Et même quand Jésus a utilisé la parole et qu'il est parti, la Bible dit qu'il a dit qu'il reviendrait à la prochaine occasion. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant parce que son objectif, que le chrétien perde sa foi et qu'il aille avec lui en enfer. Et même quand il veut te rendre pauvre, et même quand il veut te rendre désargenté, il veut te faire tout ce qu'il veut, c'est dans le but que tu puisses perdre la foi et que tu te tournes vers lui et que tu abandonnes Christ. Mais s'il voit que ton cœur, tes regards sont toujours tournés vers Jésus dans les bons moments comme dans les mauvais moments, tes regards sont tournés vers Jésus-Christ, alors il va te lâcher. Alléluia. 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 Mais bien aimé, nous ne devons pas laisser les chocs qui nous arrivent nous détourner de la foi en Jésus. J'ai besoin vraiment d'encourager certaines personnes dans cette salle ce matin. Soyons fermes et inébranlables dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Toujours je suis présent dans la maison de Dieu. Toujours je suis présent en train d'élever le nom du Seigneur. Ne dites jamais, je suis découragé, ça ne va pas, je reste à la maison. Ne trouvez pas des excuses, parce que les excuses que tu vas trouver ne viennent pas de toi, ça vient de l'ennemi. Il va te dire, tu n'as pas la paix, tu ne peux pas aller à l'église. Comment tu vas louer Dieu à partir du moment où tu n'as pas la paix? Viens voir ton pasteur. Pasteur, soutenez-moi, aidez-moi, priez avec moi. Ça, c'est une bonne attitude. Alléluia. 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 L'armée du Pharaon est entrée dans le passage que Dieu a ouvert. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais sache que l'armée de Pharaon ne te laissera pas. Mais sache que Dieu non plus ne te laissera pas. C'est ça ce qu'on appelle le combat spirituel. Combat spirituel, ce n'est pas faire une grande prière et délivrer quelqu'un. Le combat spirituel, c'est notre attachement à Jésus-Christ. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes, je suis dans le combat spirituel. As-tu des problèmes dans ta famille en ce moment? Pharaon est devant ta porte. Mais sache que Dieu non plus n'est pas loin de toi. La nuée du Seigneur est là. Pour finir mon message, j'aimerais poser la question au peuple de Dieu. Savez-vous pourquoi le peuple d'Israël a vacillé devant l'armée de Pharaon? A vacillé devant la mer Rouge, a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans sans arriver à la terre promise. Pourquoi il y a eu toutes ces choses, mes aventures, tous ces problèmes? Vous le saviez? C'est dans le texte que je viens de lire. Verset 12, ça résume tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui peut nous lire ça? Exode 14, verset 12.
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert.
Amen. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? C'est-à-dire qu'au moment où le peuple d'Israël était encore en Égypte et que Moïse était venu leur parler de la terre promise, leur parler de leur délivrance, voilà ce que Dieu veut faire dans votre vie. On va faire ça, on va faire ça, on va partir. Après, on va arriver à la terre promise, les promesses de Dieu. que Moïse leur a fait, eux, le peuple d'Israël en esclavage, ils n'étaient pas trop convaincus de ce que Moïse leur disait. Amen. Ta maison tiendra debout que grâce à la façon dont tu as bâti le fondement de la maison. Si le fondement est solide, la maison tiendra debout devant le vent et marée. Mais si le fondement est basé sur le doute, sur l'inquiétude, tu n'es pas trop sûr, etc., tout le reste va être catastrophique. Ils ont dit à Moïse, n'est-ce pas ce qu'on te disait? On t'avait dit en Égypte, non, nous on ne se retrouve pas dans ton projet là. Laisse-nous en Égypte, tu as insisté et finalement tu nous as convaincus, tu as vu maintenant. Ils n'avaient pas la foi au départ. Le manque de foi au départ de tout ce que nous voulons faire peut agir dans le reste de notre vie. Vous qui êtes jeunes dans la foi, peut-être de 1 à 2 ans, c'est maintenant que se joue votre salut. Si vous bâtissez bien les choses au départ, vous allez rester solide dans la foi. Mais si au départ vous jouez avec votre foi, vous jouez avec, ça va te suivre. Ça va te suivre. Tu vas tomber dans les habitudes et ça va te suivre. Revenons maintenant au fondement. Rebaptisons le fondement. Si le fondement est solide, quelles que soient les difficultés, les incompréhensions, les querelles, les discours, les machins, tout ce que vous voulez, tu resteras solide dans ta foi. Et tu vas y arriver. Et tu prendras part à la noce de l'agneau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je peux prier avec vous? Vous me le permettez? On peut se mettre debout, s'il vous plaît. Je ne m'aime pas. Ça va? Amen. Alors, si tu es là dans cette salle et que tu es au début de ta conversion, je vais prier avec toi et tu vas commencer à être de plus en plus très sérieux dans ton engagement. Participe à des réunions à l'église, réponds à l'appel de l'église, participe à des moments de prière à l'église, les moments de jeûne et de prière, prie beaucoup, et au moins une journée de jeûne et de prière dans la semaine, tu es en train de bâtir ton fondement. Amen. Et ça, ça va t'aider dans les années à venir. Ça va te soutenir durant tout le long de ta foi chrétienne. Lèvons nos mains vers le Seigneur. Père éternel, nous sommes conscients que nous vivons dans un monde perverti. Nous sommes conscients, Père éternel, de cette réalité, de ce qui se passe autour de nous. Tout ce que nous voyons à la télé, sur Internet, etc. Tout cela cherche seulement à détourner notre foi de toi. Mais je te prie, Seigneur Dieu, ce matin, avec mes frères, avec mes sœurs qui sont là debout, les mains levées vers toi. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton esprit bâtisse, Seigneur Dieu, ton royaume dans le cœur de chacun de nous. Qu'une détermination sans faille puisse naître dans nos cœurs à suivre Jésus-Christ en esprit et en vérité. À prendre des décisions qui peuvent nous coûter cher. À prendre des décisions qui peuvent risquer notre vie, mais dans le seul but de plaire à toi, toi le vrai Dieu, toi le vrai Seigneur. Je te prie pour les jeunes, Seigneur, de convertis qui sont dans cette salle, ceux qui n'ont pas passé beaucoup d'années, Seigneur Dieu, avec toi, mais qui viennent, Seigneur, de découvrir l'amour que tu as pour eux. Ô Père éternel, réveille leur conscience, afin qu'ils puissent bâtir sur du roc. Réveille leur conscience et remplis leur cœur, Seigneur, de l'amour de te servir, de rester à tes pieds, d'obéir, d'être humble et de bâtir leur fondation, Seigneur. Père, merci de tourner tous nos regards vers ton Fils, Jésus. Merci, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont là depuis des années, de les renouveler dans leur foi, de les encourager. Je te prie de venir au secours de ceux qui sont découragés. Que aujourd'hui soit un jour de renouvellement, Papa, renouvellement dans le Saint-Esprit. Afin que tous nos regards se tournent vers toi. Détourne nos regards des chars de Pharaon. Mon Dieu, je fais confiance. Et je sais que tu as entendu notre prière. Et je sais que les désirs sont en train de naître. Les décisions sont en train d'être prises dans les cœurs. Et je te rends grâce pour cette fin d'année. Pour un esprit de nouveau commencement. Que tu établis dans cette assemblée pour des choses nouvelles. Pour des nouvelles attitudes. Afin que le peuple puisse monter dans une attitude plus élevée. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta paix dans les cœurs. Merci pour ceux que tu as encouragés aujourd'hui, que tu as rassurés aujourd'hui, que tu es avec eux dans les moments qu'ils sont en train de traverser. Merci l'Éternel pour les frères que tu es en train de dynamiser, Papa. Oh, je te prie pour cette personne qui est en train de retrouver l'esprit d'évangélisation qu'il avait et qu'il a vu partir petit à petit. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de toucher ses lèvres avec ta pierre. Et que les paroles qui sortent de sa bouche soient encore de plus en plus efficaces pour ramener le cœur à Jésus. Merci pour cette femme que tu es en train de remplir encore son cœur de ton amour dans le service des enfants. Merci l'Éternel Dieu de la remplir de ton esprit afin qu'elle puisse encadrer encore davantage les enfants. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ce responsable qui est en train de passer des moments de découragement. Oh, je te prie Seigneur de réveiller sa conscience là où il se trouve et que ton onction puisse encore le redynamiser. Et je bénis ton nom pour cet esprit de réconciliation, pour cet esprit de puissance, pour cet esprit de dynamisme. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'encourager la chorale. Merci Seigneur Dieu de susciter encore des vocations dans ce milieu. Et je te rends grâce Père, parce que tu ramènes tous les yeux, les cœurs vers Jésus. Que toute la gloire revienne au Seigneur, le chef suprême de l'Église. Amen.